bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour le 5e épisode des Frica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Vous connaissez la rengaine, ne soyez pas timide et venez donc interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Nous remercions en tout cas nos fidèles qui toujours relaient notre travail. Merci à vous tous les amis. Et Frica vous emmène aujourd'hui à la découverte de 6 affiches du dernier tour préliminaire de Ligue des Champions africaine. 6 matchs sélectionnés par nos soins, opposant donc 12 équipes, parce que 6 fois 2, 12, ben ouais, qui vont vous faire emprunter pas mal de sentiers inusités du continent en matière de ballon rond. Mais avant de commencer la rando, on s'échauffe un petit peu avec le courrier Quinfri. Commençons, si vous le voulez bien, par un petit point Premier League nigériane, histoire de reprendre les choses là où nous les avions laissées. La bonne affaire de la semaine revient au champion titre, l'ambitieux Plateau United de Kennedy Boboy, qui s'impose d'un petit but sur un Enugu Rangers qui dégringole en milieu de tableau. Les jaunes et verts de Joss en profitent pour s'adjuger la première place aux dépens d'un Canopilar abonné au nul depuis 3 matchs. Si seuls 2 points séparent le leader de la 7ème place occupée par Yobi Star, il faut préciser que Plateau compte un match en retard. Une rencontre face à l'avant-dernier, Go Round, qui pourrait lui permettre de prendre quelques distances en cas de succès. Prendre le large sur ses poursuivants, c'est ce qu'Oroya réalise sans trop suer en Ligue 1 guinéenne. Les Rouges possèdent en effet 10 larges points d'avance sur Afia, son dauphin, et 12 sur Wakiria, qui complète le podium. Les dés semblent jetés au pays de la Pogba Family. Au nord, bien plus au nord, en Tunisie très exactement, le club athlétique bizertin se fait violemment taper sur les doigts par la FIFA. Redevable de dettes envers Ibrahim Aboubakar Aliou, ancien joueur des Requins du Nord et nigérian de son état, l'équipe de Bizerte s'est vue retirer 6 points en championnat en guise de sanction. Le CA bizertin dégringole à la 9ème place sans toutefois être vraiment inquiété par la relégation. En haut du classement, les espérantistes, de l'Espérance Tunis ma foi, continuent de survoler la compétition malgré quelques turbulences point de vue résultat. Le légendaire club de Tunis devance en effet ses poursuivants, le club africain et l'étoile du Sahel, de 8 confortables unités. Au pied du podium, le club sfaxien et l'US Monastirienne restent en embuscade en ce qui concerne la lutte pour la qualification continentale, attention à eux. De l'autre côté du Maghreb, le leadership du Ittihad Tanger dans le Botola marocain est bien moins solide. Si les Hercules enchaînent les victoires, 8 succès, série en cours, Agadir et le Raja Casablanca le gardent à portée de tir, à 2 petits points pour être précis. À l'autre bout du classement, la lanterne rouge, le Maghreb Tétouan, a annoncé l'arrivée sur son banc d'Abdelawed Ben Sen, qui aura pour mission de rattraper les 8 longueurs qui séparent le club du maintien. Englué en milieu de tableau, le Wydad Casablanca a un peu retrouvé le sourire pour sa part grâce à sa victoire en Super Coupe d'Afrique face au TP Mazembe. Dominateur tout au long de la partie, mais manquant cruellement de réalisme à l'image du penalty d'El Karti détourné par Gbowo en seconde période, les Marocains finiront par trouver la faille par Tigazoui, auteur d'un somptueux coup franc à la 83ème. Cette super coupe fut également marquée par la première utilisation de l'assistance vidéo au cours d'une rencontre de la CAF. Monsieur Sika Zoué ayant en effet eu recours à la technologie pour refuser un penalty au WAC. Les coupes continentales suivent leur bon déroulement en avançant vers le dernier tour de qualification pour la phase de groupe. Le nombre de rencontres est encore trop nombreux pour vous faire la liste de manière digeste, mais vénard que vous êtes, Efrika vous en a sélectionné 6 que nous allons vous mettre en lumière tout de suite. Let's go!
Et c'est parti donc pour trois premières affiches, pour les trois premières affiches qui seront présentées par Farouk Abdou. Comment vas-tu Farouk ?
Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs des Frikia et à tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Ça va, prêt et enthousiaste pour le retour des matchs couperets de la Ligue des Champions africaine. On attend ça depuis novembre, mais c'est toujours à la même époque de l'année que le suspense revient en attendant la phase de poule.
Oui, mais chaque chose en son temps, et c'est une affaire de patience tout ça. Quand on est patient, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, je crois que ça le dit-on. Alors aujourd'hui, tu nous as sélectionné trois affiches. Alors qu'ils vont nous faire voyager pour donner un peu les pays en Tunisie, ça c'est pas trop une surprise avec toi, au Maroc, en RDC, République démocratique du Congo, au Nigeria avec un club qu'on a déjà vu dans le dernier podcast, et au Kenya, ça c'est la première fois qu'on met les pieds au Kenya. Alors pour les citer les matchs, justement il s'agit de l'affrontement entre le Gor Mahia et l'Espérance Tunis, donc Gor Mahia qui est un club kényan, qui est le club kényan, entre l'Étoile du Sahel et Plateau United, l'Étoile du Sahel donc aussi un club tunisien, et Plateau United, club nigérian, que nous avons vu la dernière fois avec Pierre-Marie Gosselin dans le dernier podcast spécial championnat du Nigeria, et le Difa El Jadida, Maroc, contre l'AS Vita de la République démocratique du Congo, AS Vita qui est un gros club du continent. Tu voulais commencer par le match entre le Gor Mahia et l'Espérance Tunis. Alors avant de présenter, nous parler un petit peu de l'Espérance Tunis que tu connais sur le bout des doigts, je pense. Gor Mahia est un club kényan donc qui domine son pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Exactement, c'est toujours le client habituel quand le Kenya doit envoyer un représentant en Coupe d'Afrique. Pour la petite histoire, cette affiche est chargée de souvenirs car c'était l'affiche de la finale de C2 1987, l'Espérance de Tunis Gor Mahia. Et les Kenyans avaient remporté la coupe en faisant un double match nul avec un partout au Kenya et deux partout à Tunis. Donc c'est une affiche chargée de souvenirs qui rappelle un passé glorieux côté Kenyan et un passé un petit peu chaotique côté Espérance de Tunis parce que c'était un des principaux couacs qu'ils avaient eu à l'époque en compétition africaine. Bon, après, depuis, il y a eu beaucoup de succès, mais disons que celle-là était restée quand même un petit peu en travers de la gorge. Depuis, évidemment, les Kenyans ont perdu beaucoup du lustre d'antan. Les deux équipes s'étaient affrontées en 2014 et l'Espérance avait gagné 8-2 sur l'ensemble des deux matchs. Les Kenyans se sont débarrassés des lions végétariens de la Guinée équatoriale au tour précédent.
Ça, c'est assez génial, hein. Ça, faudra qu'on se pense dessus, mais oui, donc vous avez bien entendu, chères auditrices, chers auditeurs, il y a un club de Guinée équatoriale qui s'appelle les lions végétariens.
C'est prévu, ça fait partie des curiosités du continent qui mériterait qu'on se penche dessus en détail. L'histoire de ce club est assez folle, avec ce ressortissant espagnol qui avait fondé le club et qui d'abord l'avait nommé avec ses considérations végétariennes, et ensuite, dans un second temps, après qu'il ait quitté le pays, il y avait eu une démarche pour essayer de renommer le club, mais il fallait garder le côté végétarien, donc ils ont rajouté Lyon. Donc forcément, ça, comme ça, au premier abord, ça ne paraît pas être des foudres de guerre, mais en tout cas, les Kenyans les ont affrontés au tour précédent et les ont éliminés.
Donc voilà, le Gor Mahia, hein, tu l'as dit, qui est un habitué de la compétition, qui est un régulier, à part l'exploit dont tu as parlé, le Gor Mahia, c'est un régulier, mais qui fait rarement des performances.
Qui est souvent destiné à s'arrêter. Désormais, avec la réforme de la compétition, sachant que la phase de poule a été étendue de 8 à 16 clubs, avant, dans le format d'avant, le Gor Mahia s'arrêtait un petit peu souvent au stade des 64e de finale, enfin au 64e de finale. Là, il va un petit peu plus loin, mais normalement, ça devrait. L'affiche est déséquilibrée, mais disons que l'écart peut être réduit selon une considération, c'est que l'Espérance de Tunis connaît un début d'année 2018 un petit peu compliqué avec le changement d'entraîneur, avec la réduction de l'écart au championnat, avec des poursuivants qui se font de plus en plus pressants, le sentiment qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà très tôt dans la saison émoussé physiquement. Il y en a beaucoup qui avaient fait le stage hivernal avec l'équipe nationale au Qatar. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui semblent vraiment, disons, déjà entamés physiquement fin février. L'Espérance de Tunis va jouer un match très difficile vendredi en championnat, un déplacement à Monastir. Ils doivent enchaîner ensuite avec Gormaya en début de semaine prochaine, sans vouloir aller jusqu'à dire que l'affiche va être moins déséquilibrée que prévu. Je ne vois pas l'Espérance de Tunis s'imposer au Kenya, mais il pourrait quand même avoir quelques petites inquiétudes, surtout que défensivement, c'est vraiment pas ça du tout.
Oui, parce que l'Espérance Tunis a quand même une avance confortable en championnat. Peut-être qu'ils peuvent se permettre du coup d'y aller tranquillement sur cet affrontement au Kenya en attendant de jouer chez eux avec un peu plus de force peut-être.
Bah, si le mois de février s'était déroulé sans anicroche, je pense pas qu'il y aurait eu trop de problèmes, mais l'Espérance de Tunis a perdu quelques points. Il y a eu beaucoup de réglages sur le plan défensif qui ne se font toujours pas. Il y a beaucoup de joueurs qui se fatiguent. Si l'Espérance perd à Monastir vendredi, ça va commencer à être chaud. Et la manière d'aborder ce tour de Ligue des Champions prendra forcément une autre tournure. Je vois pas l'Espérance se faire éliminer, mais que ce soit moins simple que prévu, c'est très possible.
C'est une possibilité. L'Espérance Tunis en profite, qui pour rappeler, hein, qui va bientôt fêter ses 100 ans. Ce sera l'année prochaine, ce sera en 2019. Le second match dont tu voulais nous parler pose donc l'étoile du Sahel, club l'étoile sportive du Sahel, club de Sousse en Tunisie. Sousse, on est sur de la ville qui a 3000 ans d'histoire quand même. Hein, on n'est pas sur la ville neuve là. C'est quand même une grosse cité, une grande cité du Maghreb.
Exact. Et un grand passé africain aussi.
Et un grand passé africain, et qui affrontera donc l'équipe nigériane de Plateau United, que PM nous avait présenté la dernière fois, donc le champion en titre du Nigeria, premier titre pour eux, avec un entraîneur, Kennedy Boboy, qui a été élu meilleur entraîneur du Nigeria en 2017. C'est la fameuse équipe, pour rappeler l'anecdote, dont les réserves avaient été banni du championnat à cause de matchs arrangés, le fameux score 79-0, un truc pas possible.
C'est score fleuve, très suspect.
Un tout petit peu suspect, et c'est donc leur première participation, et pour leur première participation, ils ont passé le premier tour, et là, ils vont se coltiner un gros habitué, et pas seulement un gros habitué, c'est le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions d'Afrique.
Exact. Le gros turnover nigérian étant ainsi fait, on pourrait penser que à chaque fois quand on voit de l'émergence de nouveaux clubs, là, dans le cas de Plateau United, ils ont rapidement gagné après leur montée en 2015, etc. On voit une grosse montée d'ambition, parce que le coach a dit qu'il visait l'accession en phase de poule, rien que ça, alors qu'il connaissait déjà la disposition du tableau et qu'il savait qu'ils allaient affronter du gros morceau en 16e. D'annoncer comme ça leurs ambitions, c'est quand même assez gonflé, mais je pense que du fait du match retour au Nigeria et le fait que l'Étoile du Sahel peut avoir quelques petits problèmes et n'a jamais été très en réussite lors de ses déplacements au Nigeria, ça peut être compliqué. Le principal point sur lequel cette confrontation va se jouer, c'est la capacité des joueurs de l'Étoile du Sahel à garder le contrôle de leurs nerfs et de leurs émotions durant le match. Le souci, c'est qu'on a vu que cette équipe, à plusieurs reprises sur les dernières années, est susceptible de mal réagir suite à une erreur arbitrale, suite à des provocations, et peut facilement péter les plombs. Lors de la Ligue des Champions 2016, l'Étoile du Sahel s'était déplacée au Nigeria, avait perdu 3-0 face à Enyimba, et quasiment toute l'équipe avait été avertie, il y avait eu deux expulsés. Il y avait eu des suspicions, un petit peu arbitrage maison, etc., l'indiscipline avait été punie, etc., mais les joueurs de l'Étoile, ceux de la génération actuelle, ont vraiment tendance à dégoupiller très très facilement. Et dans un tour pareil de Coupe d'Afrique, où la confrontation peut vraiment être serrée en match aller-retour, ça peut leur jouer des tours, comme c'était le cas en 2016. Je prends aussi un autre exemple beaucoup plus récent, les deux derniers classicos en championnat contre l'Espérance de Tunis. Au match aller, 5 joueurs de l'Étoile suspendus pour cette prise, soit à l'arbitre, soit à des joueurs adverses. Et il y a eu deux nouveaux des suspensions et une expulsion lors du classico retour. Suite à un pénalty litigieux accordé à l'Espérance de Tunis. Le truc, c'est que ces joueurs, et le coach algérien Madoui en est conscient, c'est qu'ils sont trop nerveux. Dès que le niveau monte et que la situation est serrée, le moindre petit fait de jeu peut les faire sortir du match. Et là, dans un contexte où ils affrontent une équipe nigériane ambitieuse, qui va jouer sans complexe et qui va certainement les chahuter à domicile, si les joueurs de l'Étoile du Sahel ne contrôlent pas leurs émotions, ça peut très mal tourner, comme en 2016.
Oui, donc un Plateau United qui est actuellement premier de son championnat, qui, tu l'as dit, est clairement ambitieux, qui peut-être venir titiller une Étoile du Sahel, pas forcément si sereine que ça, malgré l'expérience bien plus grande que celle des Nigériens.
Oui, même si l'Étoile du Sahel affiche un niveau de jeu beaucoup plus intéressant depuis l'arrivée du coach algérien Khairedine Madoui, le vécu africain, même s'il correspond à l'ADN du club, c'est pas quelque chose qui va se transmettre automatiquement d'une génération de joueurs à l'autre. Surtout, et je parle en particulier, de l'attitude qu'ils peuvent avoir et cette nervosité qui peut les gagner assez vite. Ça peut être le facteur X de cette confrontation.
Très bien. Eh ben, écoute, on va suivre ce match avec attention, et ça a l'air un petit peu plus déjà un peu plus équilibré que le match d'avant. On va enchaîner avec le troisième match qui oppose donc le Difa El Jadida, un club marocain qui est loin d'être un cador au Maroc. Hein, c'est d'ailleurs, ça, il me semble, sa deuxième participation à la Ligue des Champions. Voilà, au niveau du palmarès, il est très très loin devant les Wydad, Raja, etc. Et contre l'AS Vita, qui lui par contre est un habitué des compétitions continentales africaines, l'AS Vita de République démocratique du Congo, qui, et ça c'est la petite anecdote, ça m'a fait rire, la page Wikipédia du club annonce un stade à, tenez-vous bien, 125 000 personnes, quand on regarde un petit peu mieux, etc., le fameux stade des martyrs de Kinshasa est en fait à 80 000 personnes.
Exact, mais c'est surtout là-bas qu'il y avait eu le drame avec le stade qui était surchargé contre le tout-puissant Mazembe. La pression populaire là-bas, on la sent, elle est vraiment très conséquente. Et en ce qui concerne l'AS Vita Club, qui est un candidat habituel au top 16 africain chaque année, la pression à domicile est un sacré atout, même si ce n'est pas nécessairement l'arme numéro 1 de l'AS Vita Club. Là, dans le cas de cette confrontation, le Difa El Jadida, c'est un club, si on devait le décrire, c'est un club souvent placé qui se débrouille bien, qui est souvent dans le premier tiers du championnat du Maroc, mais qui est rarement gagnant. Leurs résultats sont satisfaisants. Eu égard aux moyens qui sont inférieurs aux gros cylindrés, ils se débrouillent très bien. Ils ont joué deux finales de la Coupe du Trône sur ces dernières années. Ils en ont remporté une. Ils ont fini vice-champion l'année dernière sous l'impulsion de leur jeune ex-attaquant Walid Azaro, qui a une bonne chance de figurer dans la liste des 23 d'Hervé Renard. Et malheureusement, ils avaient perdu Azaro, qui a été transféré au club égyptien d'Al Ahly. Ils avaient perdu un bon milieu de terrain qui s'appelle Diakité. Ils avaient perdu l'un de leurs milieux offensifs, Adraf, qui est parti jouer au Raja Casablanca. C'est une équipe qui avance vite en contre, qui dispose de joueurs puissants encore actuellement, à l'instar de Ayoub Nana, qui se débrouille bien. Voilà, si on devait décrire le Difa El Jadida, c'est une équipe qui se débrouille pas trop mal et qui vaut 4/5 du championnat du Maroc chaque année. Mais face à l'AS Vita Club, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour une simple et bonne raison, c'est que le Difa El Jadida encaisse quand même pas mal de buts, et dans une confrontation aller-retour où l'AS Vita Club adore titiller ses adversaires à l'extérieur, ça va sûrement se jouer là-dessus. Pour faire simple, depuis 2014, l'AS Vita Club a joué 20 matchs à l'extérieur en compétition africaine et a marqué au moins un but à 14 reprises. Ils sont particulièrement à l'aise à l'extérieur, et s'ils peuvent marquer dans n'importe quel stade dans une confrontation aller-retour où ça va coûter cher, moi je pense que l'AS Vita Club va marquer El Jadida, et ça va sûrement compliquer la tâche des Marocains.
Oui, donc il est probable que l'AS Vita arrive à faire une performance au Maroc, et voilà. Et puis on l'a dit, l'importance de ce stade, la taille de ce stade, même si elle est un peu exagérée sur la page Wikipédia, ça reste une entre assez impressionnante qui ne peut qu'intimider les joueurs marocains.
Oui, même si le renouvellement a été intéressant du côté de l'effectif d'El Jadida, ils avaient pris le petit Tanzanien Simon Msuwa qui fait une bonne saison, qui est un petit joueur rapide qui présente une grosse vivacité. Même si l'AS Vita Club a perdu une partie de son contingent de joueurs étrangers, notamment son fameux attaquant Rwandais qui avait été suspendu 2 ans pour avoir présenté 2 passeports avec 2 noms différents et 2 âges différents, le bien nommé Dadi Birori. C'est un attaquant qui avait été suspendu entre 2014 et 2016 pour double identité, donc, mais qui avait quand même claqué 80 buts avec l'AS Vita Club, donc 15 buts en compétition africaine. C'est une perte, parce que quelqu'un qui marque 15 buts en compétition africaine, généralement, il le fait exprès. C'est quand même une sacrée valeur. Ils avaient perdu aussi le Camerounais Atouba qui est parti en Afrique du Sud. Mais l'AS Vita Club a renouvelé son effectif en recrutant des jeunes joueurs prometteurs des autres clubs du championnat de la RDC et ont présenté lors du tour précédent de bonnes dispositions en marquant une nouvelle fois à l'extérieur. Si on reste dans cette configuration-là, il va falloir que El Jadida soit vraiment très solide, en particulier à domicile.
Très bien, et bah écoute, on a fait le tour de ces trois matchs que tu nous as sélectionnés. Juste parce que voilà, il y a bien d'autres rencontres hein, au second tour, premier tour ou voilà, dernier tour de qualification. Pourquoi ces trois matchs-là ?
Eh ben, je voulais dissocier pour les clubs tunisiens des cas où, contrairement aux années précédentes, où ce tour-là aurait pu constituer une formalité, quel que soit le format de la compétition. Cette année, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de challenge pour la situation personnelle de l'Espérance de Tunis, pour l'adversaire je pense, solide pour l'Étoile du Sahel, et j'insiste beaucoup sur ce point, cette gestion d'émotion où il va falloir progresser. C'est des raisons qui font que, pour une fois, les clubs tunisiens peuvent être challengés à un stade de la compétition où, généralement, on penserait que ce serait élémentaire qu'ils puissent passer cet écueil sans trop de soucis. Moi, j'ai pris ces matchs-là cette année parce que, pour une fois, je pense que ça va être pas aussi évident. Et j'avais choisi la confrontation El Jadida Vita Club parce qu'elle me paraissait intéressante pour voir comment est-ce qu'un club aux résultats satisfaisants qui n'est pas nécessairement le club le plus cité quand on parle du football marocain, comment est-ce qu'il peut se comporter contre un client candidat naturel à la phase de poule.
Très bien, bah écoute, j'ai envie de te dire élémentaire, mon cher Farouk. Bah, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Et on se retrouve tous les deux pour un prochain sujet sur Africa.
Avec grand plaisir, à la prochaine.
Après ces 3 affiches globalement localisées dans la partie nord, nord-ouest du continent, partons plus au sud, sud-est, avec Pierre-Marie qui va nous en présenter 3 autres.
Et nous enchaînons donc avec 3 autres matchs que va nous présenter Pierre-Marie Gosselin. Donc 3 autres matchs qui vont nous faire voyager ce coup-ci plutôt au sud et à l'est de l'Afrique. Nous a pas un petit coup d'Afrique de l'Ouest avec le Togoport. Mais premièrement, comment vas-tu Pierre-Marie ?
Eh ben bonjour Simon, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Dans le froid sibérien parisien, Mais bon, je tiens le coup et je continue de rêver de mon soleil africain là qui se rapproche chaque jour un peu plus.
Bah ma foi, à chaque fois que je te vois, je te demande de leurs nouvelles, des nouvelles des petits de la Bisport.
Eh ben ça va. Je t'avais dit hein, la dernière fois qu'ils devaient jouer un tournoi cette semaine. Ils ont commencé hier, une victoire 2-0, pas trop mal. Je suis assez content, mis à part hein, l'éternel problème du football déjà en Afrique avec l'âge. Et je t'avoue que je suis un peu déçu parce qu'il y a un de mes joueurs à qui j'avais demandé de préparer son passeport pour être prêt à jouer l'année prochaine des tournois internationaux. qui finalement apparemment a décidé de refaire un nouvel acte de naissance pour pouvoir jouer un petit tournoi de proximité au Bénin. Je t'avoue que c'est un peu frustrant et décevant, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ils ont gagné, les autres font la même chose, donc voilà, c'est comme ça.
Allez la Bisport. Allez la Bisport, mais aujourd'hui, point de Bénin, point de Guinée, puisqu'on était pas mal habitué à parler du Bénin et de la Guinée. Bon, l'autre fois, tu me diras, c'était le Nigeria. Aujourd'hui, on attaque des nouvelles nationalités hein, qu'on n'avait pas trop abordées jusqu'ici, puisqu'on va aborder trois affiches de ce dernier tour préliminaire de Ligue des Champions d'Afrique. Avec toi, tu as choisi, c'est toi qui les as choisis, tu as choisi de nous présenter Saint-Georges Kampala CCA, donc un club éthiopien, Saint-Georges, et contre un club ougandais, hein, le club de Kampala. Le club de Young African contre les Township Rollers. Donc Young African, c'est Tanzanie, et Township Rollers, c'est Botswana. Voyons, on voyage là, hein, on touche des pays dont on n'a pas trop l'habitude de parler quand on parle de foot africain. Et là, voilà. Et puis là, on va revenir un petit peu de quelque chose qui vous êtes peut-être plus familier, chères auditrices et chers auditeurs, Togo, donc Togo Port, contre le Al Hilal, qui va cette fois nous refaire voyager. Mais Al Hilal, attention, Soudan, Al Hilal, c'est un immense club africain. Mais tu voulais commencer par cet affrontement éthiopiano-ougandais, de pays qui ont des frontières, me semble-t-il, entre Saint-Georges et KCCA.
Oui. Alors, j'ai choisi ces matchs-là parce qu'il me semble que c'est des matchs qui sont avec un dénouement qui paraît très incertain, difficile de dire qui va pouvoir sortir vainqueur de ces oppositions. Et puis surtout, normalement, c'est des matchs qui devraient nous offrir de belles ambiances. Donc voilà, j'ai décidé de les présenter un petit peu aujourd'hui et de nous les mettre en avant. Donc effectivement, comme tu l'as dit, hein, le premier choc, c'est Saint-Georges contre KCCA. Tout simplement, c'est le premier match de la journée de compétition puisqu'ils vont ouvrir les hostilités dès mardi prochain à 14h. Comme tu l'as dit, hein, c'est pas forcément des pays où on a trop l'habitude de voyager pour parler football. Et pourtant, par exemple, Saint-Georges, c'est un club plus que mythique du football éthiopien qui est basé du côté de Addis Abeba. C'est un club qui se rapproche tout doucement de son centenaire puisqu'il a été créé au milieu des années 30. Et figure-toi qu'il a été créé à l'époque pour se mesurer aux Italiens qui avaient tenté de mettre en place un empire colonial du côté de l'Éthiopie. C'était la période Mussolini, hein, l'avant Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir nous situer. Et quand un club naît comme ça, ça devient rapidement un symbole de nationalisme et de liberté. Et tout au long de l'histoire contemporaine éthiopienne, Saint-Georges a animé le côté footballistique et la fierté des Éthiopiens. Bon, ils écrasent la concurrence au niveau local puisqu'ils en sont déjà à 29 titres de champion. Ouais, ça va être difficile à les battre, surtout que les autres n'en sont pas à plus de 7.
On les avait vus l'année dernière, avant de parler de leur adversaire, on les avait vus l'année dernière, Saint-Georges, en 2017. Ils en étaient restés à la phase de poule, c'est ça?
Exactement. Tu vois, tu me devances, ils étaient en phase de poule contre notamment Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis. Et effectivement, on en avait parlé parce que l'ambiance était tout simplement géniale. Je me souviens être tombé justement sur un match 2 et entendre les chants, tout ça, cette ambiance un peu à l'anglaise, ça m'avait touché. Et figure-toi que depuis, j'avais continué à aller sur un petit peu. Donc effectivement, les auditeurs attentifs de nos podcasts ont déjà entendu parler d'eux et figure-toi qu'ils se souviennent peut-être même de leur couleur, le jaune et rouge.
Tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour faire la petite parenthèse, la petite anecdote sur Saint-Georges, si vous allez sur leur page Wikipédia anglaise, vous avez de quoi vous demander par qui elle a été écrite, puisque dès le début, dès le deuxième paragraphe en histoire, il y a un paragraphe tout simplement qui fait leur apologie, qui leur souhaite carrément un anniversaire et qui les remercie to be part of this family, a historic and timeless club, point d'exclamation. Wikipédia étant censé être un média objectif, là je crois, je sais pas trop, je soupçonne un supporter d'avoir écrit l'article et de s'être un peu emballé. Enfin bon, c'est assez rigolo, je vous encourage à aller voir ce petit paragraphe sur la page Wikipédia de Saint-Georges, qui est très bien fait d'ailleurs, et sur laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce club. Et donc tu nous dis que c'est ce grand club, ce gigantesque club éthiopien, est sur le point donc d'affronter le KCCA d'Ouganda.
Ouais. Alors, KCCA pour Kampala Capital City Authority. Donc, c'est l'abréviation, grosso modo, de la mairie de Kampala. Donc, c'est ni plus ni moins que le club de la mairie de la ville de Kampala. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Hein. L'Ouganda, pour que vous vous situez, c'est un pays dans la région des Grands Lacs, hein, avec la proximité du Burundi, du Rwanda, et bloqué un petit peu entre la RDC et la Tanzanie.
C'est un des nombreux pays qui s'abreuvent dans le lac Victoria. Le lac Victoria, ça fait une espèce de gros puits d'eau. Donc au sud-est de l'Afrique, et il y a plusieurs pays comme ça, 5 ou 6 autour, et l'Ouganda en fait partie.
Exactement, exactement. Je vois que tu devais être pas mal en géographie. Félicitations. Donc je vais revenir sur mes Ougandais de Kampala. Donc c'est un club qui est un petit peu plus récent, puisqu'il a été créé plutôt au début des indépendances des pays africains, et en l'occurrence le KCCA lui a été créé en 1963. Ce n'est pas le club le plus titré d'Ouganda, mais ils en ont quand même déjà pas mal, puisqu'ils en comptabilisent 12. Et figure-toi que eux, ils s'étaient fait éliminer à ce même stade de la compétition l'an passé, justement par les Mamelodi Sundowns, qui ont retrouvé Saint-Georges en phase de poule un petit peu plus tard. Donc pour revenir à cette année, les Ougandais, eux, ils sont passés au tour précédent face à des Malgaches de CNAPS. Je dis juste pour l'abréviation, ça parlera peut-être, puis ça nous permettra dans les années à venir de les avoir déjà introduits. Les Malgaches de CNAPS, c'est le plus grand club malgache, et eux, figure-toi, c'est le club de la sécurité sociale. Voilà, ça ne s'invente pas.
Et, club d'Antananarivo, du coup ?
Ouais, base à Antananarivo, exactement. Et pour de leur côté, les Éthiopiens n'ont pas eu de premier tour, puisque leur adversaire a déclaré forfait au dernier moment. Et quand je dis dernier moment, c'est vraiment le dernier moment. Il s'agit des Sud-Soudanais, enfin il s'agissait plutôt, puisqu'ils sont éliminés, des Sud-Soudanais de Wosalam, qui ont déclaré forfait le jour du match, à quelques heures du coup d'envoi, alors même que le Addis Abeba Stadium était déjà rempli de ses supporters. Donc voilà, en termes d'administratif et de rigueur administrative, les Sud-Soudanais ont fait très fort, même si on peut évidemment leur trouver des circonstances atténuantes quand on connaît la situation un petit peu catastrophique dans laquelle se trouve leur pays, où bien évidemment le sport passe au second plan quand c'est la misère, la famine et la guerre.
Bien évidemment. Bon, on rappelle qu'il y a encore du foot, même quand il y a du contexte comme ça, ça c'est impressionnant.
Ouais. Il y a un championnat qui se déroule, mais bon voilà. Ça, je pense que d'un point de vue du budget, c'était un petit peu juste pour eux pour se rendre en Éthiopie. Je pense qu'ils ont espéré jusqu'au dernier moment, puisque quand même, je dis, pour déclarer forfait alors que le stade est déjà rempli par les supporters, c'est quand même que vraiment on a attendu le dernier moment.
Et du coup, qui part favori de ce duel, sachant que Saint-Georges était donc en phase de groupe l'an passé, que c'est un immense club dans son pays, que Kampala est un très gros club mais pas forcément le premier, tu l'as dit, que ses grands exploits, ses quelques quarts de finale en Ligue des Champions africaines remontent aux années 80, qui sort favori de ce duel?
Franchement, difficile, vraiment difficile à dire. J'aurais tendance à dire Saint-Georges, mais ils ont le match aller à domicile, donc il faudra faire le retour du côté de Kampala. Voilà, ça modifie un petit peu la donne. Cette équipe ougandaise, elle a pas trop bougé par rapport à l'équipe qui a obtenu le titre de champion l'année passée. Ils ont seulement perdu leur meilleur buteur. L'expérimenté Geoffrey Serunkuma, qui a quand même fini meilleur buteur à 34 ans, c'est pas anodin, ça a signalé, et qui a décidé de partir du côté de la Zambie pour finir sa carrière. Ils ont très peu recruté cette intersaison, ils ont juste récupéré deux jeunes joueurs qui étaient dans les équipes un peu adverses, et je vais te donner, pour voilà, comme ça nos auditeurs pourront se faire leur propre avis sur cette opposition, je vais te donner quelques petits mots du coach qui disait là il y a quelques jours: j'ai un noyau de jeunes joueurs affamés qui sont prêts pour jouer et qui, j'en suis sûr, saisiront l'opportunité dès demain. Associé avec les cadres expérimentés du groupe, cette équipe a toutes les qualités pour pouvoir réussir le meilleur. Alors effectivement, ils ont des joueurs expérimentés parce que 8 de leurs joueurs étaient du côté du Chan au Maroc en janvier là, dernièrement, même s'ils n'ont pas fait un grand parcours. Et voilà, c'est quand même des joueurs internationaux. Il y a deux petits joueurs à suivre, donc le milieu Saddam Jouma et son compère Alan Okeyo. Ils ont malheureusement une petite blessure sur laquelle il leur manque leur meneur de jeu hein, qui est blessé, Moutiaba. Bon, on croise les doigts pour qu'il soit remis pour la semaine prochaine, mais ce n'est pas évident. Du côté éthiopien, il n'y a pas forcément cette expérience-là avec énormément de joueurs qui sont en sélection, mais il y a quand même le meilleur joueur de l'histoire du football éthiopien, Salidine Saïd, à la pointe de l'attaque de cette équipe-là. Il avait déjà été très bon l'année passée. Voilà, c'est les Éthiopiens s'appuient beaucoup sur lui. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Moi, je t'avoue que c'est un peu du 50-50. Addis Abeba est quand même une capitale située en altitude puisqu'ils sont à 2400 mètres. C'est quand même pas rien, même si forcément ça n'a rien à voir avec la Bolivie. Mais c'est quand même, il faut quand même se les taper, ces 2400 mètres. Et mais voilà, bon, moi je dirais 50-50, un petit avantage à Saint-Georges quand même qui a l'expérience de l'année passée, de la phase de poule.
Saint-Georges, pourfendeur de dragons, hein, pour ceux qui connaissent la mythologie, c'est d'ailleurs sur l'écusson de l'équipe de Saint-Georges, on y voit Saint-Georges, le cavalier, en train de tuer le dragon. Donc Saint-Georges, l'Éthiopien qui va tenter de tuer le dragon ougandais, mais comme tu le dis, le dragon a ses chances pour bouffer le cavalier. Voilà pour la petite allégorie footballistico-légendaire. Et tu voulais nous parler, on va passer au second match, tu voulais nous parler d'un... Alors là, on part encore dans deux pays qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, qu'on n'a pas l'habitude de survoler en termes de football africain, donc le Botswana et la Tanzanie, puisque ce sont les Tanzaniens du Young Africans qui affrontent Township Rollers. Township Rollers, excusez-moi pour l'accent encore une fois.
Ouais, ton accent pas mal du tout, hein. C'est même moi qui va devoir m'y arrêter parce que sinon c'est c'est mon accent à moi qui paraît ridicule. Donc ouais, comme on continue avec un autre match qui va se jouer mardi, le coup d'envoi est prévu légèrement après celui de Saint-Georges, mais c'est deux matchs qui se chevauchent puisque celui-ci aura lieu à 14h30. Il faut signaler que si du côté de l'Éthiopie ça ne devrait pas empêcher le stade d'être bien rempli, du côté de Dar es Salaam par contre, je t'avoue que c'est une date et un horaire qui risque de diminuer la tendance qu'on peut retrouver dans le stade, parce que c'est vrai que si ça s'était joué un samedi ou un dimanche, forcément ça permettrait à davantage de monde de pouvoir se déplacer au stade. Bon, mis à part ça, le match aura quand même bien lieu sur la somptueuse pelouse du Taifa Stadium de Dar es Salaam, une pelouse naturelle d'excellent état dans un stade neuf de 60 000 places qui répond à toutes les normes télévisuelles et qui permet généralement de pouvoir assister à de bons matchs à la télé. Young Africans, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé au cours de nos podcasts. C'est un club un petit peu à l'image de Saint-Georges, hein, qui date des années 30, qui a été créé en 1935. Et ils se battent avec leur adversaire héréditaire de Dar es Salaam aussi, Simba SC, pour le titre de plus grand club du pays. Ils sont un petit peu en avance puisqu'ils ont 27 titres alors que leurs concurrents n'ont que 18 entre guillemets, et ils sont sur une série de 3 titres d'affilée, hein. Donc les 3 dernières années c'est pour eux le championnat. Il y a quand même un petit truc à signaler, c'est que des supporters de Simba vont forcément aller au stade pour encourager les Popa Popa de Township Rollers, parce que c'est une habitude en Tanzanie. Quand Simba joue, les Young Africans viennent supporter l'adversaire. Et quand Young Africans joue, les supporters de Simba viennent encourager l'adversaire. Donc, ce match-là ne dérogera pas à la règle, qu'on soit sur la scène continentale ou pas.
Et donc, tu nous dis que la Tanzanie est un pays où Simba n'est pas le roi.
Non. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Il faut lui laisser le temps de grandir. Mais c'est mal parti. Mais quoique c'est mal parti, pour cette année, Simba, qui, on en avait parlé dans les brèves il y a quelques jours, oui, puisqu'ils ont un nouveau sélectionneur français, Pierre Lechantre, et ils sont très bien placés pour être champions. Ils ont, je crois, 6 ou 9 points d'avance sur le deuxième au championnat local. Donc voilà, les Simba ne sont pas les rois de l'histoire du football tanzanien, mais ils seront peut-être les rois du football tanzanien de cette année. Revenons-en à notre match qui nous intéresse, où Simba n'est pas là, puisque l'adversaire sera plutôt les Botswanais de Garborone, de Township Rollers. Alors, c'est une équipe qui est dirigée, par un homme d'affaires indien qui a fait fortune au Botswana, Jacques Disha. C'est un petit détail quand même qui a son importance parce que depuis qu'il a pris la tête du club, l'équipe s'est complètement développée d'un point de vue structurel et marketing. C'est assez incroyable. Ils répondent à tous les standards de notre temps, d'aujourd'hui, avec que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'animation du stade, que ce soit tous les standards de communication, etc., qui sont respectés et qui sont un petit peu surprenants pour comme tu l'as dit, le Botswana, c'est pas forcément c'est pas forcément un pays qui frappe comme ça d'un point de vue football. Et ben si. Donc cette équipe botswanaise, elle a réalisé un exploit assez remarquable au tour précédent puisqu'ils ont sorti les Soudanais d'El Merreikh. Notamment grâce à une victoire 3-0 au match aller à domicile. Et si l'on en croit les propos de leur coach, qui est un Serbe, Nikola Kavazovic, ça s'est passé dans des circonstances plutôt pas mal. Je vous lis. On n'a pas juste battu l'équipe qui est cinquième au classement africain, on les a dominés, on a montré une très bonne qualité de niveau de jeu, de discipline tactique, de jeu défensif, de transition, de possession de balle et d'attaque. Je ferme les guillemets. Donc, si ils ont dominé sur tous les plans. Ils ont perdu d'un retour alors qu'ils avaient quand même, ils auraient pu se rendre le match très facile. Hein. Il faut dire qu'ils ont mis leur but à l'extérieur qui les pratiquement les qualifiés d'office et ils avaient ouvert le score dès le début de la première mi-temps. Donc, ils ont éliminer les Soudanais avec la manière, je pense qu'on peut le dire. Alors que de leur côté, les Tanzaniens, ils avaient une opposition beaucoup plus simple face aux Seychellois de Saint-Louis-Suns. Victoire 1-0 au match aller sans véritablement être mis en danger. C'est un match que j'ai eu l'occasion de regarder. Ils ont raté un pénalty, ils ont raté énormément d'occasions et ils sont allés faire un match nul au retour du côté du Seychelles 1-1. Donc, d'un point de vue du score, c'est pas très impressionnant. Sur le terrain, la domination était là, mais l'efficacité non. Alors ça a peut-être pu passer contre les Seychellois. Attention contre les Botswanais parce que ce sera pas un adversaire du même acabit. D'un point de vue de l'effectif, les Tanzaniens sont, ils ont pas de chance. En plus, ils enchaînent les matchs. La confrontation là de Ligue des Champions sera leur cinquième match en deux semaines. Et ça fait depuis déjà un moment qu'ils doivent faire face à beaucoup de blessés. Et parmi ces blessés, on compte pratiquement la majorité, pour ne pas dire la totalité, des étrangers qui composent l'effectif du club. Et notamment leur milieu de terrain, Kamou Soko, qui est un super joueur. Il approche de la trentaine. Hein, c'est un joueur expérimenté qui est en Tanzanie depuis très longtemps, puisque j'avais eu l'occasion de le voir jouer quand j'y étais allé en 2013. Donc, vous voyez, ça fait 5 ans qu'il est déjà là-bas. Leur autre attaquant zimbabwéen, Donald Goma, également blessé. Leur défenseur burundais, Tamboué, est blessé. Leur attaquant zambien, Aubry Chiroua, qui est le meilleur buteur d'équipe en championnat, est également blessé. Et ajouté à ces blessés étrangers, il faut rajouter leur défenseur international, Michael Gadiel. Donc ça fait beaucoup de joueurs en moins, sachant que le nombre de joueurs étrangers est limité. Donc vous imaginez bien que les étrangers qui recrutent sont généralement bons, pour ne pas dire internationaux. Ce qui fait dire à leur entraîneur, le Zambien, Luanda Mina, c'est très difficile de manager quelque chose comme ça avec une liste de joueurs blessés aussi importante. C'est vraiment décevant. Mais je suis quand même satisfait et je remercie les jeunes joueurs qui ont su saisir l'opportunité et qui se battent pour l'équipe. Voilà, donc
Mais alors du coup, est-ce que selon toi, les Young Africans qui n'ont pas atteint la phase de poule depuis 98 et avec toutes ces blessures vont réussir à défaire ce Township Rollers qui paraît bien ambitieux, qui en tout cas montre qu'il est plein de confiance en lui, mais qui lui n'a jamais atteint la phase de poule.
Ce serait un véritable exploit pour les Botswanais de se qualifier. Sur le papier, c'est vrai que les Tanzaniens peuvent paraître favoris au vu de l'histoire des deux clubs, au vu du passif des deux clubs. Mais je t'avoue que quand on voit cette liste de joueurs absents, quand on voit les prestations effectuées, au tour précédent, les Botswanais risquent d'être dangereux et les Blues, hein, comme qui est le surnom de l'équipe de Tanchi Proler, je t'avoue, avec un match retour à la maison, surtout si l'affaire n'est pas pliée au match aller, auront quand même de grandes chances de pouvoir renverser cette équipe-là et de se qualifier pour la première fois, enfin, qui serait quelque chose d'exceptionnel, une équipe botswanaise en phase de poule, ce serait assez génial. Juste quand même, ce week-end, ils vont jouer une finale de match de coupe. On sait que c'est pas forcément très facile à gérer quand il y a deux événements aussi importants et aussi rapprochés. Savoir qu'ils jouent leur finale le samedi, ils voyagent le dimanche pour jouer le mardi leur match en Tanzanie. S'ils arrivent à gérer ça, ça va être voilà. Moi je les mettrai quand même favoris. Attention parce que Garo vaincu de ce tour-là, parce qu'il faut savoir que l'éliminé se retrouve repêché pour la Coupe de la Confédération et ils vont avoir de nouveau un match de barrage contre une autre équipe qui s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Donc, du côté de ceux qui attendent le vaincu de ce match-là, on parle de l'Espérance de Tunis, du club africain, du Moulia d'Alger, etc. Donc, les clubs maghrébins, ça va être très, très difficile à les sortir. Donc, voilà. Je conseille à une de ces deux équipes de se qualifier pour pouvoir continuer sur la compétition continentale un peu plus tard que le mois de mars.
Eh ben, nous verrons donc si qui des Young Africans tanzaniens ou des Botswanais du Tanchi Prowlers, dont un des surnoms est aussi Popa Popa. C'est assez rigolo. Je préfère, ouais, j'avoue, Popa Popa que The Blues. C'est un peu plus africain, plus original. On voyage un peu plus que The Blues qu'on, ouais, connaît bien en Europe, qu'on connaît bien The Blues. Voilà, les Bleus. Bon, c'est tout de suite moins foufou. Donc on verra qui de ces deux équipes, encore une fois, un choc assez équilibré, quoique voilà, les Young Africans ayant l'expérience pour eux, mais ayant des petits problèmes d'effectifs, et Tanchi Prowlers étant plus jeune en termes d'expérience dans ce genre de compétition à ce niveau-là, mais très affûté pour cette qualification, pour ce match. Passons au troisième match, si tu le veux bien, qui va donc opposer une équipe togolaise, une équipe de Lomé, le port de Lomé, le Togo port, et un géant africain. Tu as parlé de leur rival un peu plus tôt, le Almerek d'Omdurman, je ne me souviens plus bien, Omdurman, c'est ça, hein, Omdurman.
Ouais, c'est bien ça.
Omdurman. Donc tu avais parlé de leur rivaux, donc de Almerek d'Omdurman. Mais cette fois-ci, on va passer donc au Al Hilal d'Omdurman. Donc Omdurman. Bon, on va arrêter. On va juste les appeler Al Hilal. Donc l'équipe soudanaise qui va affronter les Togolais du Togo port. J'ai bien peur que ce soit un peu compliqué pour les Togolais, non?
Ouais, c'est probablement l'affiche la plus, disons, la plus inéquilibrée, la plus déséquilibrée, pardon, je vais reprendre. Effectivement, c'est l'affiche la plus déséquilibrée des trois matchs que j'ai retenu. Même si vous allez le voir, au final, peut-être que Togo Port aura toutes ses chances pour renverser le géant soudanais. Géant soudanais, donc du Al Hilal, qui cette année, malgré le statut d'enclavé de son pays, a pris rendez-vous avec les ports pour cette compétition continentale, puisque l'équipe de Omdurman, qui est banlieue de Khartoum, hein, parce qu'on dit Omdurman, mais ça pourrait être Al Hilal de Khartoum. C'est des villes jumelles. Ils se sont débarrassés donc au tour précédent de l'équipe libérienne de LISCR FC. Et LISCR, ce n'est ni plus ni moins que Liberia International Shipping and Corporate Registry. Leurs joueurs sont surnommés les Shipping Boys, donc les marins. Et donc voilà, c'est quand même un clin d'œil assez marrant que ces Soudanais soient opposés dans un premier temps à l'équipe portuaire du Libéria pour passer au tour d'après contre l'équipe portuaire du Togo. Ça m'a bien fait sourire. Quand même, ça a eu l'occasion de parler des Libériens de LISCR qui ont quand même terminé leur saison en championnat invaincu. Alors, à prendre avec des guillemets, puisqu'ils ont 10 victoires et 12 matchs nuls. 12 matchs nuls, c'est quand même assez important. Mais c'est une première dans l'histoire du championnat du néo-président Georges Ouéa. Donc, c'était à signaler. Et au final, les Libériens l'avaient emporté chez eux 1-0. Et les Soudanais ont réussi à retourner le score à Khartoum grâce à leur victoire 2-0 qui les a qualifiés et qui les opposera donc au Autogolais de Togo Port, de l'Est Togo Port. Donc, c'est l'équipe portuaire qui est située à Lomé et qui est administrée par le port autonome de Lomé. Eux, ils ont déjà réalisé un exploit au tour précédent puisqu'ils ont sorti les Congolais de l'AC Léopard de Dolisie. C'est la deuxième année consécutive que les Léopards se font sortir à ce stade de la compétition. Voilà, c'est quand même un peu une anomalie parce que au début en 2012-2013, les Léopards étaient devenus une équipe majeure du continent. Ils avaient réussi à remporter la Coupe de la Confédération et c'est vrai qu'ils étaient synonymes un petit peu du retour en avant du football congolais de Brazzaville, hein, du Congo-Brazzaville. Et depuis 2 ans, ça tire un peu et cette année, ils se sont fait sortir pour pas grand chose, vous allez comprendre, par les Togolais de Togoport. Au final, les deux matchs se sont conclus par un score de 2-1. Et c'est au tir au but que s'est jouée la qualification. Mais le scénario, notamment du match retour, peut laisser d'énormes regrets aux Congolais. Même si les Togolais avaient ouvert le score dès la première minute de jeu par leur buteur attitré, Elise Wonou, ils se sont fait revenir au score et il aura fallu attendre la 90e minute pour que le défenseur Bouraima puisse sauver les siens et permettre aux Togolais d'arracher la séance de tir au but, hein, puisqu'il n'y a pas de prolongation et qu'on passait au tir au but directement. Voilà, ça a servi un petit peu, je l'espère, hein, d'avertissement aux Togolais parce que le contenu du match était un petit peu à leur avantage. Ils ont énormément d'occasions de faire le break et de tuer la partie sans y parvenir. Et au final, ben, c'était les Congolais qui étaient à deux doigts de se qualifier et la chance a souri à Bouraima et ses coéquipiers. Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour les Togolais, mais voilà, ils tombent sur un os là, ils tombent sur Al Hilal. Ils ont quelque chance ou pas, honnêtement?
Ils ont quelque chance parce que les Soudanais viennent juste de reprendre leur championnat. Al Hilal aura disputé 2 matchs de championnat d'ici la rencontre de mercredi. Donc on ne peut pas dire que d'un point de vue du rythme, ils soient très affûtés. Bon, ils sont quand même largement favoris, on va pas se mentir, le statut des deux clubs n'a rien à voir et puis surtout Al Hilal aura l'avantage de recevoir au retour dans leur tout nouveau stade.
Que j'allais dire recevoir, on l'avait dit dans les brefs, dans leur tout nouveau stade un tout
le
nouveau
Blue Diamond.
Voilà, tout bleu, le Blue Diamond de 62 000 places tout de même quand même.
Ouais, et puis dans lequel il y aura forcément une grosse ambiance parce que il faut rappeler le club de Al Hilal peut s'appuyer, un des très rares clubs subsahariens qui peut s'appuyer sur un groupe ultra, les Blue Lions qui sont là à chaque match pour mettre l'ambiance, allumer des fumigènes, chanter et encourager leur équipe. Donc voilà, moi j'ai ce petit bémol d'un point de vue de la différence de rythme entre les deux équipes, surtout que les Togolais ils en sont à la 18e journée de leur championnat, ils en sont déjà à 11 victoires, donc c'est une équipe qui est bien rodée. Voilà, il faut qu'ils fassent le match parfait mercredi à domicile pour se donner toutes les chances de pouvoir se qualifier à Khartoum. Il faut pas qu'ils encaissent de buts, il faut qu'ils soient en mesure, mais malgré une défaite, de pouvoir se qualifier. Donc j'ai envie de te dire que pour les Togolais, tout va se jouer au match aller, et qui sait, s'ils réalisent un exploit, ils seront peut-être en mesure de ramener une équipe togolaise dans une phase de poule en compétition continentale, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Et qui sait, permettre aux Togolais de rêver aux exploits de passer de l'étoile filante qui avait atteint la finale en 1968, qui est la seule équipe à avoir atteint ce stade de la compétition. 68, 2018, tu vois, ça commence à dater.
40 ans, écoute, pourquoi pas. 40 ans, qu'est-ce que je raconte, 50 ans même. Et du côté de Al Hilal, 2 petites anecdotes. Déjà, juste pour dire que le Al Hilal est entraîné par un entraîneur lucarno-posé-esque, puisque c'est un Brésilien, Sergio Farias, qui a entraîné au Brésil, mais aussi au Sénégal, en Thaïlande. Il a entraîné le Guangzhou RNF de Chine, dont on parle souvent dans le FC Corner, le Al Ahly en Arabie Saoudite, le Al Wassel aux Émirats Arabes Unis, et le Pohang Steelers, cher à Baptiste Mourigal, donc Pohang Steelers, une équipe sud-coréenne avec laquelle il a gagné la Ligue des Champions d'Asie 2009. Donc voilà, c'est un monsieur quand même qui sait ce qu'il fait, qui est aux commandes de l'équipe. Et la deuxième anecdote, c'est que Al Hilal, j'ai fini par rechercher parce que ça me tarabiscotait tout ça. Al Hilal, Hilal, ça veut dire croissant. Donc, c'est un hommage donc au croissant de l'islam. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, puisque le club s'appelle Al Hilal, le croissant. parce qu'il se les personnes qui ont créé le club se prenaient la tête sur le nom de l'équipe. Il y en a un qui a dit aujourd'hui, vous voyez, c'est le croissant de lune, et voilà, il était visible et il a dit bah voilà, double hommage, il est présent aujourd'hui le jour de la création du club, hommage à l'islam, le croissant Al Hilal. Donc tous les Al Hilal s'appellent le croissant, on sait qu'il y en a d'autres ailleurs, et il se trouve que le Al Hilal d'Omdurman est le premier Al Hilal de tous les Al Hilal.
Eh ben comme quoi tu m'en apprends une belle. Et c'est vrai qu'on retrouve le croissant dans le logo du club, hein, puisqu'il y a le croissant bleu a une part très importante. Et c'est vrai, c'est toujours, et ben c'est intéressant quand même de noter, parce que dans tout le football arabe, hein, qui se partage entre l'Afrique et l'Asie, hein, puisqu'on peut considérer le football égyptien comme un football arabe, ou le football marocain, maghrébin, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les Soudanais sont à l'origine de ce nom-là, qu'on peut retrouver notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, peut-être même du côté de Dubaï. Donc c'est, voilà, c'est très intéressant, et ça permet également de rappeler que le Soudan est un des pays qui est à l'origine de la création de la Confédération africaine de football. Donc c'est clairement un historique du football africain et maintenant mondial, on peut le dire.
Écoute, on va se focaliser sur ces trois matchs. On va retenir les scores, hein. J'espère que nous vous avons intéressé, que nous avons donné envie de jeter un petit œil sur ces matchs, sur l'histoire de ces clubs, car comme vous l'avez vu, il y a de l'histoire très profonde dans le football africain, et notamment dans des pays que l'on n'a pas l'habitude de survoler dans les médias globalement, sur le foot africain. Botswana, Tanzanie, Soudan, Ouganda, Éthiopie, j'en passe, et on en verra d'autres dans Africa. Merci beaucoup, PM.
Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie, et je tiens à rappeler à nos auditeurs, hein, s'ils ont envie de suivre ces matchs-là de compétition de la Ligue des Champions, à se rendre sur le Twitter notamment de Farouk Abdou, qui a l'habitude de poster, de partager les liens. Et donc voilà, si ça a éveillé la curiosité de certains qui ont envie de passer l'étape suivante et de voir un match, eh ben, je vous invite sur le Twitter de Farouk Abdou.
C'est noté, Farouk, notre deuxième chroniqueur. Allez, ciao PM.
Ciao Simon, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 5e émission des Friquins. On avance, hein, ça s'empile, on commence à prendre de l'expérience et vous commencez à en savoir bien plus, hein, avouez qu'avant, sur le continent africain du football. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Friquins. Salut les amis.